Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Réplique, Victor Hugo, Histoire d'une âme, avec Fabrice Luchini. Victor Hugo est un penseur et un poète résolument optimiste. Optimisme politique. La société de l'avenir sera superbe et tranquille. Aux batailles succéderont les découvertes. Les peuples ne conquerront plus, ils grandiront et s'éclaireront. On ne sera plus des guerriers, on sera des travailleurs. On trouvera, on construira, on inventera. Exterminer ne sera plus une gloire, ce sera le remplacement des tueurs par les créateurs, les frontières s'effaceront sous la lumière des esprits. Optimisme prométhéen. L'homme, se vivant à brève échéance, se perpétuel mourant, entreprend l'infini. Il entend faire ce que bon lui semble. Un univers est une matière première. Le monde, œuvre de Dieu, est le canevas de l'homme. Tout borne l'existence, mais rien ne l'arrête. Il réplique à la limite par l'enjambé, l'impossible est une frontière toujours reculante. Mais le génie de Victor Hugo ne se laisse pas enclore ni catégoriser. Fabrice Luchini a choisi d'entrer dans cette œuvre immense par la porte de la mélancolie. L'éblouissant spectacle qu'il lui consacre s'ouvre sur le poème des contemplations « Veni, vidi, vixi ». Infime mais décisive modification de la célèbre formule de César. Non plus l'impérial « je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu », mais le « je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu » de la simple humanité. Pourquoi le choix de ce poème, Fabrice Luchini?
Une femme metteur en scène qui s'appelait Sophie Filière, qui malheureusement nous a quittés cet été, avait eu cette idée de commencer un tournage d'un film qui serait la suite de ce spectacle par ce poème que je ne connaissais pas. Donc j'ai découvert ce poème et les grands spécialistes, Jean-Marc Ovas, m'ont dit que c'était un des seuls poèmes, peut-être le seul poème où il est totalement désespéré et c'est prodigieux. C'est comme ça que ça a commencé.
Oui, c'est vrai, c'est un poème totalement désespéré. « Ô ma fille, j'aspire à l'ombre où tu reposes. Puisque mon cœur est mort, j'ai bien assez vécu. Je suis plein de stupeur et d'ennui,
comme un homme qui se lève avant l'aube et qui n'a, pas dormi. »
Et puis, ces deux derniers vers, « Ô Seigneur, ouvrez-moi les portes de la nuit, afin que je m'en aille et que je disparaisse. » Il s'agit de la mort de Léopoldine, sa fille, 19 ans, son bateau de plaisance, son petit bateau chavire, voilà. Et elle mort
elle s'était mariée quelques semaines avant.
C'est en 1843.
Le 4 septembre. Et lui, il est à Rochefort. Vous imaginez, Alain, la culpabilité en plus terrible, parce qu'il est avec Juliette Drouet. Juliette Drouet, tous les ans, exige un voyage. Et là, cette fois-ci, c'est en Espagne. Ils remontent, ils sont à Rochefort. Il est passé à l'île d'Oléron, qu'il n'a pas tellement aimé. Juliette lui propose d'aller boire un verre de bière pour lire les journaux, parce que la diligence qui doit les emmener à La Rochelle ne part qu'à 6 heures, et il est à peine 2 heures de l'après-midi. Et là, il y a l'horreur, puisqu'il y a ces quatre mots de Hugo. Il est dans le café, elle regarde le charivari, elle regarde les titres, elle n'a même pas le temps de regarder les titres, il n'y a personne dans le café. Et tout d'un coup, elle le voit, et il dit ces quelques mots, grâce au journal de Juliette Drouet. Hugo dit à Juliette, voilà qui est horrible. Il voit qu'il y a marqué dans le journal, la fille du grand poète vient de mourir, etc.
Mais vous continuez, vous n'en restez pas à la lecture de ce poème, vous en lisez d'autres où s'exprime le désespoir de Victor Hugo à travers l'amour éperdu qu'il éprouvait pour Léopoldine. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts. Et puis il y a aussi ce « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai et quand j'arriverai, je mettrai sur sa tombe un bouquet de houvert et de bruyère en fleurs. »
Il y en a un autre, si je peux me permettre, oui, Alain,
oui,
qui est pour moi un chef-d'œuvre. Je fus comme fou dans le premier moment, hélas, et je pleurais 3 jours amèrement. Vous tous à qui Dieu prit votre chère espérance, père, mère, dont l'âme a souffert ma souffrance, tout ce que j'éprouvais, l'avez-vous éprouvé ? Je voulais me briser le front sur le pavé. Puis je me révoltais, et par moments terribles, je fixais mes regards sur cette chose horrible. Et je n'y croyais pas, et je m'écriais, non, est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nom qui font que dans le cœur, le désespoir se lève, il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté, que je l'entendais rire en la chambre, à côté, que c'était impossible, enfin, qu'elle fût morte, et que j'allais la voir entrer par cette porte. C'est la grande thèse de Claude Roy, le génie de la banalité, le lyrisme. Qu'autrefois j'ai dit, silence à la parler, tenez, voici le bruit de sa main sur la clé, attendez, elle vient, laissez-moi que j'écoute, car elle est quelque part dans la maison sans doute. L'idée qu'Hugo nous montre que quand quelqu'un meurt de si important, il ne peut pas l'intégrer. Attendez, que deux fois j'ai dit silence à la parler, tenez, voici le bruit de sa main sur la clé. Attendez, elle vient, laissez-moi que j'écoute, car elle est quelque part dans la maison, sans doute. Il croit qu'elle est là, quoi.
Oui, d'ailleurs, vous citez Claude Roy.
Oui, remarquable.
Et je trouve ça très bien, parce que c'est un homme, ouais, il est plus communiste, mais il a été un peu oublié.
Et méprisé.
Et vous dites que il définit Victor Hugo comme ce canon d'artillerie de marine qui sait nous casser superbement les oreilles, mais est aussi le prince du murmure.
Voilà.
Et ça, c'est vraiment très beau. Et vous disiez également la préface des Contemplations. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis. La destinée est une, prenez donc ce miroir et regardez-vous-y. Ah, insensé, dit-il un peu plus loin,
oui,
qui croit que je ne suis pas toi.
Ça, c'est prodigieux pour, oui, un acteur de théâtre. Il dit, on se plaint quelquefois des auteurs qui disent « moi ». Parlez-nous de nous, leur crie-t-on, lui qu'aurait comme prévu l'autobiographie, j'allais dire narcissique, c'est excessif, mais là, le grand espace du moi. Et il dit, on se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi, parlez-nous de nous, leur crie-t-on, et là c'est la phrase géniale, hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous, comment ne le sentez-vous pas? Oh, insensé qui croit que je ne suis pas toi.
Oui, mais justement, en plus, de quoi parle-t-il? Il parle du deuil, il parle du chagrin. Il ne fait pas son deuil, il est en deuil. Grande différence, et le deuil, le chagrin, c'est effectivement, et malheureusement, l'expérience la plus commune. Tout le monde, évidemment, ne connaît pas la tragédie, le malheur de perdre un enfant, mais on perd ses proches. Mmh. Évidemment, il nous tend un miroir.
Mmh. Et il a l'espoir délirant qu'on est lui.
Oui.
Il croit dans sa mégalomanie humble, parce qu'il y a un mélange de mégalomanie. Il pense que le malheureux mec, comme vous et moi qui lisons, on est lui. Mais on n'est pas exactement lui, on n'a pas la vitalité, ne serait-ce que sexuelle, qui était,
oui,
très importante.
Très importante.
Et nous ne sommes plus là-dedans, Alain, vous et moi.
Ah,
au,
écoutez,
niveau de la libido, soyez sincère.
Mais je n'ai pas du tout envie d'être sincère sur l'antenne de France Culture.
Voilà, en tout cas.
Donc je passe.
Allez, passez.
Passons. Et revenons à Victor Hugo. Nous parlerons de la vitalité sexuelle quand nous aborderons,
importante,
le poème clé de votre spectacle, c'est-à-dire Beaux Endormis. Oui. Mais il y a un poème que vous ne lisez pas, qui est très intéressant parce que c'est Avilquier,
oui,
le poème de l'apaisement, de la consolation. Tout d'un coup, il se réconcilie avec Dieu.
Mmh.
Il ne le maudit plus. Le désespoir laisse place à une certaine forme de sérénité. Et il a ses vers. Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme ouvre le firmament, et que ce qu'ici-bas nous prenons pour le terme est le commencement. Donc la mort n'a pas le dernier mot. Il y a une vie après la mort, il y a une vie éternelle. C'est ce qu'il se dit, ce qu'aujourd'hui, plus personne vraiment, même les croyants, n'arrive tout à fait à se dire. L'espérance et la consolation existent, mais de manière très inquiète, si j'ose dire. L'inquiétude se niche au cœur même de la consolation. Mais si j'ai lu ces vers, c'est parce qu'en effet, Victor Hugo ne veut pas croire qu'il n'y a rien. Et vous avez un très bel entracte, si j'ose dire, dans votre spectacle émouvant et exigeant, c'est les tables tournantes. Victor Hugo croyait aux esprits, il faisait tourner les tables, et à un moment donné, vous citez un dialogue incroyable, je crois, avec Molière.
Oui. Il a été séduit quand Delphine de Girardin a débarqué à Jersey. Elle était nourrie de spiritisme qui avait envahi les États-Unis, qui allait envahir l'Angleterre et la France. Et il a détesté ça. Il a dit, genre, je veux pas entendre parler de ça. Mais elle l'a eu parce que c'était le 10 septembre, 10 ans plus tard, 53. Elle lui a dit, nous pouvons communiquer avec Léopoldine. Et en réalité, pourquoi il a été conquis, c'est qu'il a communiqué avec sa fille.
Il a communiqué avec Léopoldine, c'était ça.
Hein, oui, ben c'est comme ça qu'il l'a eu.
C'est ça qu'il a, d'accord.
Ben, évidemment, et après, et ça je le dis pas trop, parce que comme c'est un moment de détente et que ce spectacle, mais c'était le 19 février 1854, il est 9h30 du soir, Alain, visualisons à Jersey, 9h30 du soir, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de télé.
Ah, mon Dieu, comment ils faisaient ?
Et comment ils faisaient ? Ben, ils avaient des soirées intéressantes, puisque la preuve, pendant 2 ans, Hugo a travaillé avec toute la famille à travers des séances spirites. Il a dialogué donc avec Hannibal, avec Dante, avec Cain, avec Shakespeare, Luther, Sappho, Chénier, Alexandre le Grand, Léonidas, Molière, et j'adore les 4 derniers, Jésus, Platon, Eschyle et Galilée. C'était des soirées assez riches. Et ce que j'ai dit...
Oui, il choisissait bien ses interlocuteurs.
Oui. C'est extraordinaire, ça donne 9h30 du soir, sont présents Victor Hugo, Madame Victor Hugo, Auguste Vacry, et il y a Charles Hugo, Théophile Guérin, et là Hugo prend la main, il y a tout un truc avec des points, machin, on entend Hugo qui dit « qui est là ?», Molière répond la table, Victor Hugo dit « veux-tu parler de toi-même ou que nous t'interrogions ?» Si tu veux parler de toi-même, un coup, sinon 2 coups, la table frappe 2 coups. « Eh ben, on va t'interroger en vers, comme tu l'as demandé, » dit Victor Hugo. « Auguste Vacry t'a écrit une question, as-tu besoin qu'il te la lise ?»« Pas de réponse, » écrit Hugo. « Est-il nécessaire qu'on te lise la question pour que tu y répondes ?» Et je vais aller jusqu'à cette phrase-là. « La table ne bouge pas, » dit Hugo. « Nous attendons quelques minutes. » La table est dans une immobilité absolue. Alors évidemment, les gens qui étaient tendus se mettent un peu à se détendre. Je parle du public. Nous nous demandons si c'est la question qui l'a froissé. Ça, je trouve ça prodigieux. La délicatesse hallucinante. C'est pas la piste cyclable à Paris, quoi. C'est-à-dire, c'est un endroit de telle courtoisie qu'on s'interroge. Si Molière répond pas, c'est qu'on a été brutal dans notre demande. C'est une incarnation de la délicatesse, de la courtoisie, du génie de la forme.
Génie de la forme, et en même temps, il y a le silence, et il ne veut pas en démordre de cette idée que Molière est là.
Oui.
Et que donc, s'il ne répond pas, c'est qu'il se passe quelque chose,
qu'il
a été froissé, vexé, etc.
Voilà. Et il y en a un qui est devenu fou, malheureusement. Ils ont tout arrêté au bout de 2 ans, parce que vous savez, vous passez pas des soirées entières avec Shakespeare, Moïse, Jésus, l'Ancien Testament. À un moment, il dit « qui est là ?» On entend le vent. Alors, c'est merveilleux. Et là, Hugo dit « mais moi, je me promène souvent sur la plage. Alors, qu'est-ce que tu as de différent que le vent que je pratique tous les matins ?»« Ah non, mais moi, je souffre. »« Ah bon, explique-nous. » Et le vent explique pourquoi il souffre. À cause du péché, etc. C'est prodigieux.
Ça, c'est
et il y en a un qui est devenu fou. Et il s'est suicidé. Il est rentré dans un hôpital psychiatrique parce que c'est terrifiant. Juliette Drouet n'aimait pas ça du tout, mais tout le monde était fou de bonheur. Puis ils ont tout arrêté parce qu'il y en a un qui a craqué.
Et ça a duré 2 ans.
2 ans. Tous les soirs. 350 et quelques rencontres avec les esprits. Et il a créé la légende des siècles à la lumière aussi de tout ça.
Alors, continuons notre parcours, Fabrice Luchini. dans votre spectacle, il y a aussi des commentateurs de Victor Hugo, et pas n'importe lesquels, Baudelaire, et nous verrons tout à l'heure, Peggy.
Le plus grand.
Et alors, c'est très intéressant, parce que Baudelaire dit dans ses magnifiques réflexions sur Victor Hugo, il se montre toujours l'ami attentif de tout ce qui est faible, solitaire, contristé, de tout ce qui est orphelin. Et ça m'a beaucoup frappé, parce que dans sa générosité, si j'ose dire, démocratique, Victor Hugo accueille dans ses poèmes tous les oubliés, tous les laissés pour compte de la poésie. Alors là, je vous citerai deux exemples qui ne sont pas dans votre spectacle, mais voilà. J'aime l'araignée et j'aime l'ortie, parce qu'on les hait, et que rien n'exauce, et que tout châtie leur morne souhait, parce qu'elles sont maudites, chétives, noirs êtres rampants, parce qu'elles sont les tristes captives de leur guet-apens. Et ça continue comme ça.
C'est
et
extrait de
un poème qui s'appelle « J'aime l'araignée et j'aime l'ortie ».
Et c'est dans quel...
C'est dans les Contemplations, le chapitre « Autrefois ».
C'est avant le drame.
Oui, c'est avant le drame.
Voilà.
Et puis, un autre poème que dit André Dusselier dans son spectacle « Sans dessus-dessous » qui tourne en France en ce moment, « Le crapaud ».
Ah, c'est magnifique.
Et « Le crapaud » qui est absolument magnifique. Mais oui, « Le crapaud » qui est... Au début, un crapaud regardait le ciel, bête éblouie, grave il songeait, l'horreur contemplait la splendeur. Donc c'est animal hideux, un prêtre marche dessus, des enfants le torturent, et à la fin du poème, un âne qui tire une charrette, alors que le crapaud est à moitié agonisant, le sauve. Un autre animal hideux. Et là, il y a cette phrase, l'âne songeait passif sous le fouet, sous la trique, dans une profondeur où l'homme ne va pas. Et donc ça, c'est vraiment du Victor Hugo, mais je trouve que c'est très émouvant d'aller chercher l'araignée, l'ortie, le crapaud. C'est l'extraordinaire générosité, l'extraordinaire ouverture de ce poète. Vous êtes d'accord avec moi?
Ah oui, oui, bien sûr.
Il y a aussi un texte de Baudelaire où il prend un peu ses distances.
Ah oui, après, bien sûr.
Avec Victor Hugo, et notamment avec Les Misérables. Mmh. Les Misérables ont posé un problème à beaucoup d'écrivains.
Oui, Flaubert.
Flaubert, Barbey d'Aurevilly.
Oui, oui, oui.
Et puis, même des écrivains d'Europe centrale qui n'aimaient pas tout à fait le côté démonstratif, militant, humanitaire de ce livre.
Alors que Rimbaud disait que c'était un long poème.
Ah oui.
Il le dit sur Baudelaire, le premier vrai voyant, le poète doit se faire voyant par un long et raisonné dérèglement de tous les sens. Et il dit Baudelaire est le premier vrai voyant. Il y a du voyant chez Hugo, dit le jeune Rimbaud. Et c'est marrant qu'ils disent du mal quand on imagine, Alain, que dans le texte que je dis au théâtre, il écrit « Quand on se figure ce qu'était la poésie française avant... » qu'il a paru et quel rajeunissement elle a subi depuis qu'il est venu. Quand on imagine ce peu qu'elle eût été s'il n'était pas venu, combien de sentiments mystérieux et profonds qui ont été exprimés seraient restés muets, combien d'intelligence il a accouché, combien d'hommes qui ont rayonné par lui seraient restés obscurs. C'est impossible de ne pas le considérer comme un de ces esprits rares et providentiels qui opèrent dans l'ordre littéraire le salut de tous, comme d'autres dans l'ordre moral, d'autres dans l'ordre politique. » Le mouvement créé par Victor Hugo se continue sous nos yeux. Il rajoute, Baudelaire, qu'il ait été puissamment secondé, personne ne le nie. Mais si aujourd'hui des hommes mûrs, des jeunes gens, des femmes du monde ont le sentiment de la bonne poésie, de la poésie profondément rythmée, profondément colorée, si le goût public s'est haussé vers des jouissances qu'il avait oubliées, c'est à Hugo qu'on le doit. Je vois dans la Bible un prophète à qui Dieu ordonne de manger un livre. Moi, j'ignore dans quel monde Hugo a mangé préalablement le dictionnaire de la langue qu'il était appelé à parler. Mais ce génie, par suite de quelles circonstances historiques, fatalités, philosophiques, conjonctions sidérales, cet homme est-il né parmi nous? Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, ça n'est pas à moi de le savoir. Je laisse cette hypothèse. Peut-être que c'est simplement parce que l'Allemagne avait eu Goethe, l'Angleterre Shakespeare, et que nous, les Français, nous avons eu Hugo.
Nous avons eu Hugo. Mais je reviens quand même.
Mais oui, pour vous montrer à quel point il changeait d'avis.
Non, mais Les Misérables, parce que Baudelaire dit dans ce premier texte sur Hugo que la morale est présente, mais jamais à titre de but. Et il dit, dans Les Misérables, malheureusement, si.
Oui.
Mais elle est présente. Il a raison. Elle est présente comme ça. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est vrai, parce que dans Les Misérables, le mal, l'immoralité découle de la mauvaise organisation sociale. C'est du rousseauisme, en quelque sorte.
Oui.
C'est du rousseauisme.
C'est de l'enthousiasme, c'est de la naïveté.
Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est les derniers mots de cet article de Baudelaire dans L'Art romantique sur Les Misérables, où il dit « Hélas, du péché originel, même après tant de progrès, depuis si longtemps promis, il restera toujours bien assez de traces pour en constater l'immémoriale réalité. » Donc tous ces penseurs que l'on accuse d'être réactionnaires, conservateurs, etc., sont des penseurs convaincus de la réalité du péché originel. Non pas de l'histoire qu'on raconte, évidemment, mais l'idée d'une
qui
fragilité...
la chute d'une et Muret s'intègre là-dedans, d'ailleurs, ben, Philippe.
Muret
s'intègre dans « il n'y a pas de progrès possible, il y a la chute ».
Voilà, et le mal est en nous, et il y a un danger à vouloir à toute force, et ça c'est Muret aussi qui parle, externaliser le mal. Si le mal a une adresse, alors là tout devient possible, parce qu'on s'en prend, on veut exterminer, on veut s'en prendre à cette adresse, si j'ose dire, et de cette idée-là peut naître un mal plus grand encore. Donc c'est très intéressant de voir...
Très intéressant, mais c'est ce qui a fait qu'Hugo est populaire et une star absolue, et que ni Muret ni Baudelaire atteignent sa popularité. T'as envie de croire à des enthousiastes, t'as envie de croire à des gens, entre parenthèses, généreux. Sioran, Baudelaire, Muret, un peu de Nietzsche en plus, ça peut te faire perdre le goût de la rigolade, sauf que Muret était très très drôle. Mais en gros, les grands pessimistes qui expliquent qu'il n'y a pas de progrès possible, la vie est plus difficile.
La vie est plus difficile. Reste qu'on rend hommage à Baudelaire quand même.
Oui, qu'on adore.
Les Fleurs du Mal, c'est quand même reconnu comme l'un des
plus
beaux recueils de poésie
bien sûr.
Du 19e siècle.
Oui, mais... Oui, attaqué d'ailleurs lui aussi, et mais moins star que... Vous imaginez la mort d'Hugo, je veux dire.
C'est
on ne savait pas, mais il y a plus d'un million de gens qui vont le voir. La mort de Baudelaire, c'est en lousdé, quoi. C'est rien à côté.
Oui, et ça me fait penser, vous citiez le biographe de...
Jean-Marc Ovas.
Jean-Marc Ovas, alors il a dit, Victor Hugo, je cite de mémoire, donc de manière approximative... Victor Hugo a milité pour l'école obligatoire, etc. Elle existe et elle forme maintenant des gens qui ne savent plus le lire.
Ah, c'est donc, incroyable. Il a dit ça.
Oui, il a dit ça.
Ah,
et c'est bien parce que nous ne sommes plus à une époque où il pourrait y avoir un million de personnes pour la mort d'un grand penseur ou d'un grand écrivain. D'ailleurs, dans les 50... personnalités les plus populaires choisies par le journal du dimanche, aucun artiste, aucun peintre, aucun écrivain ne figure, alors qu'ils sont quelquefois proposés aux gens. Mais ça n'existe plus. Donc voilà. Et Victor Hugo, il a vu son vœu exaucé, mais qui le lit encore aujourd'hui dans les écoles?
C'est passionnant ce que vous dites. Ça veut dire que quelque chose de l'ordre de la... Oui, ce qui fait que vous êtes catalogué comme conservateur, c'est que vous constatez... un effondrement absolu.
Peut-être pas absolu.
Oui, mais un gros effondrement.
Oui, voilà. Un gros effondrement, oui.
Et c'est bien de dire du Hugo. Alors évidemment, je précise bien que c'est pas le Hugo optimiste. Moi, c'est un Hugo désespéré. Enfin, désespéré, puis en même temps, il surmonte tout parce qu'il s'en va en exil, il est très heureux en exil, et il y a un parcours qui va quand même vers la lumière, puisque ça va vers Beauce.
Oui. Alors, avant d'en passer justement... cœur de votre spectacle, c'est-à-dire Beaux endormis et la présentation par Peggy, justement un passage de notre jeunesse, parce que c'est pour parler de cet effondrement, Peggy dit déjà dans notre jeunesse, 1911 je crois, c'est un spectacle admirable que celui que donnent tant de professeurs de l'enseignement secondaire, pauvres petites gens, petit fonctionnaire exposé à tout, sacrifiant tout, luttant contre tout, résistant à tout pour défendre leur classe, luttant contre tous les pouvoirs, les autorités temporelles, les puissances constituées, contre les familles, ses électeurs, contre l'opinion, contre le proviseur, qui suit les familles, qui suivent l'opinion, contre les parents des élèves. Et dit-il, pourquoi sont-ils ainsi ? Par une indestructible piété, par un inébranlable attachement à la vieille culture. Il disait ça en 1913. En 1911.
Oui, alors, c'est deux ans avant l'argent.
Il reste quelques professeurs qui répondent à la définition de Peggy, mais
ils sont
de moins en moins nombreux.
Tous ces êtres humains, c'était eux les plus extraordinaires. Ils s'étaient vêtus de costumes noirs avec un liséré violet. Ils faisaient le plus beau métier du monde. Ils enseignaient à nos enfants La Fontaine, Hugo, Corneille. On les appelait les maîtres d'école. Et ce n'étaient pas des instituteurs, c'était des maîtres d'école.
Svelte, sévère, sanglé. Oui. Voilà comment. Ah oui, c'était l'époque de l'uniforme, mais pas l'uniforme des élèves.
Non.
L'uniforme des professeurs. Ce serait pas mal de proposer ça. Oui, pour l'uniforme, mais pour les professeurs. Bon, je lance cette idée aujourd'hui, et j'en reviens à Victor Hugo, et donc à Peggy, parce que avant de dire « Beaux endormis », Fabrice Luchini, vous consacrez un long moment à ce texte foisonnant de Peggy, à ce cahier de la quinzaine, Victor-Marie Comte Hugo. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que vous y avez trouvé ?
Eh bien parce que c'est lui qui a créé le déclic. On ne sait jamais pourquoi on crée un spectacle d'ailleurs sans aucune fausse humilité. Ça te traverse un peu. Tu ne te prends pas pour un grand créateur, mais l'agencement, pourquoi tu arrives à créer des liens, comment tu fais un montage qui part du désespoir à la lumière, etc. C'est pas tellement toi qui as décidé ça. Et un jour, je me promenais boulevard Saint-Germain, j'étais assez déprimé et je suis rentré dans une librairie qui s'appelle À l'écume des pages. Je me suis tourné vers Guillaume Brun, le monsieur qui s'occupe des livres, et je lui ai dit, je vais pas bien, j'arrive plus à lire de romans, j'essaye Philippe Roth, mais j'ai plus la capacité à me plonger dans le roman, j'en ai marre de la sociologie, la philosophie c'est trop compliqué pour moi, est-ce que vous auriez un livre qui me redonne envie de vivre ? Enfin, vivre, peut-être pas, mais en tout cas... Et là, sans aucune hésitation, il me sort Victor-Marie Comte Hugo. C'est hallucinant, le libraire qui me donne ça, et je lis ça, et ça a été le déclic. Je me suis dit, comment un homme, pendant 360 pages, analyse avec une culture gigantesque un livre ? Comment, sans aucun pédantisme psychanalytique, sans aucun pédantisme sociologique, un homme dit « Beaux endormis est un événement majeur dans l'histoire de l'humanité ». Tu te dis « c'est un cinglé ». Eh ben non, il dit que, pour une fois, il repère les moments où Hugo a du talent, parce qu'il fallait faire un choix face à ce chef-d'œuvre qui fait 360 pages, écrit à son ami à Lévy à la suite d'une brouille. Fallait faire un choix. J'aurais pu faire l'Israël, j'aurais pu faire l'incarnation, la différence entre l'incarnation chez les chrétiens par rapport au judaïsme, etc., etc. Mais j'ai choisi le talent par rapport au génie. Et Muret explique qu'il a souvent du talent, Hugo, mais ce talent ne l'intéresse pas. Ce qu'il aime, c'est le moment où il y a du génie. Le talent, pour citer Brassens, ça c'est pas Peggy qui parle, le talent sans le travail, disait Brassens, c'est une sale manie. Je suis obligé de trouver cette métaphore parce que c'est d'un tel niveau que faut que je trouve des points d'ancrage. Et le talent est une sale manie, disait Brassens, quand on ne travaille pas. Et là, Peggy dit... Il y a dans Beaux Endormis un moment qui dépasse le talent. Beaux Endormis est plein de talent, dit Peggy. Mais dans quel état ce talent est réduit ? Dans un état d'exercice, dans un état de souplesse, presque dans un état de mépris. Il s'est passé quelque chose ce jour-là où Hugo a abandonné son talent. Voilà comment je me lance dans ce poème dément qui est une prophétie païenne et un poème biblique, patriarcal et nocturne, qui a fait dire à Flaubert, j'aurais donné Madame Bovary en entier, vous entendez. Comment ce Hugo a pu pondre ce chef-d'œuvre ? L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Des anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit par moments quelque chose de bleu. Qui paraissait une aile. Non, mais quelque chose de bleu. Et là, Flaubert dit, comment il a pu trouver l'ombre était
nuptial, auguste et solennel. Il dit, ben voilà, moi j'ai jamais pondu un truc aussi génial.
Oui, mais alors, venons-en au poème lui-même.
Oui.
Que j'ai relu après avoir vu votre spectacle, que j'ai lu encore en préparant cette émission. Donc, c'est un moment biblique, le livre de Ruth, hein, dans la Bible. Ruth, la Moabite, une oui. étrangère,
ah, oui.
qui va finalement se marier, en effet, avec Boaz, riche
paysan.
Paysan. Et elle a l'autorisation de glaner dans son champ, parce que c'était une vieille coutume qui permettait aux nécessiteux
de glaner exprès des épis, voilà, disait-il.
Ce qui tombait des gerbes derrière les moissonneurs. Et en même temps, c'est très important, parce que de cette union, si j'ose dire inespérée, vont naître une suite de descendants, parmi lesquels le roi David et Jésus, rien de moins. Donc c'est un moment très très important, et c'est intéressant parce que Moabit est une étrangère, elle ne fait pas partie des tribus d'Israël. Donc il se saisit, Victor Hugo, de cet épisode. Alors pourquoi, Fabrice Ouchini, avez-vous donné une telle place à ce poème? Qu'est-ce qu'il fait vibrer en vous?
Quand vous dites les 50 personnalités préférées, pouvons-nous aujourd'hui écouter pendant une dizaine de minutes, presque, oui, plus même? D'abord, pouvons-nous le dire? Et là se pose le problème de la trahison intrinsèque de tout interprète. Comment ne pas détruire ce chef-d'œuvre? D'abord, ça, c'est la vraie question. Comment un acteur, s'il se met à investir de trémolos dégueulasses, de sonorités inadaptées, comment il détruit? Donc, essayez déjà de s'imposer comme exercice d'être le moins mauvais possible. Et de dire Boaz, non pas en chantonnant, non pas. Après, je me suis dit, est-ce qu'on peut aujourd'hui, en 2024, imposer au public, non pas le rire, non pas le ricanement, mais peut-on imposer à un public? C'est beaucoup moins compliqué que Mallarmé. Hein, la phrase merveilleuse de Jules Renard, Mallarmé est intraduisible, même en français. Eh bien, Hugo est pas compliqué. C'est même le poète le plus simple. C'est beaucoup plus simple qu'Hugo. C'est très simple, Hugo. Mais ça demande quand même une aptitude à la poésie, à l'irrationnel, à l'immense génie de la forme qu'il a donné. Et je me suis dit, eh bien voilà, moi je ne milite pas au parti socialiste, mais j'ai un petit acte de résistance, je vais imposer Boaz endormi et voir si le public suit.
Et en effet, le public suit, le public est admiratif, certains découvrent ce poème, d'autres le redécouvrent parce qu'ils l'ont éventuellement étudié en classe, et moi-même le redécouvrant, je l'ai trouvé tellement limpide que je me suis dit, j'ai rien à en dire. En sortant, je fais une émission de Quini, il faut bien que j'en dise quelque chose. Donc, je me suis adressé à une amie, Claude Habib, qui a enseigné la littérature. Et je lui dis, mais c'est quoi ce poème? Et elle a trouvé cette formule qui me semble très juste. Elle dit, c'est le poème de l'imminence sexuelle. Et c'est un peu vrai. C'est-à-dire, il va se passer quelque chose quand même. Tout le temps, on le sait. Et alors d'abord, c'est très beau parce que on a l'image de Boaz endormi, justement. Il était quoique riche, à la justice enclin. Et il y a un grand éloge, justement, de Boaz vieillard.
Oui, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Ah, ça, c'est des fois du Hugo un peu...
Hein, oh, toujours.
Le Hugo,
le Hugo des antithèses.
Par moments, des petites...
C'est le Hugo des antithèses. Mais, et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière.
Et seulement, ce que j'adore, c'est... Donc, Boaz dormait dans la nuit près des meules qu'on eût prises pour des décombres. Ah là, il a un génie des ombres. Hein. Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres, et ceci se passait dans des temps très anciens. Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge. La terre où l'homme errait sous la tente, inquiet des empreintes de pieds de géant qu'il voyait, étaient encore mouillées, vous me dites si je me trompe, et molles du déluge. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Bose, les yeux fermés, gisait sous la feuillée. Et c'est là que vous pensez, sexuel. Or, la porte du ciel s'étant entrebâillée, au-dessus de sa tête, un songe en descendit. Et ce songe était tel que Bose vit un chêne, c'est là, vous pensez, qui sortit de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu. Une race y montait comme une longue chaîne. Un roi chantait en bas, David, en haut mourait un dieu, le Christ.
Exactement.
Et Bose murmurait avec la voix de l'âme, comment se pourrait-il que de moi ceci vint ?
Voilà.
Le chiffre de maison a passé 80, et je n'ai pas de fils et je n'ai plus de femme. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre, et j'adore le verre, et nous sommes encore tous mêlés l'un à l'autre, et la demi-vivante et moi mort à demi, une race naîtrait de moi. Donc c'est la naissance d'Israël, comment et le croire ?
Et alors, c'est ça qui est très beau, c'est... Le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand, dit-il au début. Mais ensuite, après ce rêve, le pauvre Bose proteste. Il dit, moi, c'est pas possible, parce que quand on est jeune, on a des matins triomphants.
Oui.
Tout le monde sait ce que ça veut dire.
Oui.
Le jour sort de la nuit comme d'une victoire. Mais vieux, on tremble, ainsi qu'à l'hiver, le boulot. Je suis veuve, je suis seul, et sur moi le soir tombe, et je courbe, ô mon Dieu, mon âme vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau. Donc voilà, au lieu des matins triomphants, il courbe son âme vers la tombe. Donc c'est pas du tout le vieillard est grand, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire.
Et voilà ce que disait Proust. Proust oui. dit, on pourrait dire que Baudelaire est le plus grand du 19e siècle, mais s'il fallait choisir le plus grand poème... Ça ne serait pas dans ce merveilleux poète ricanant et satanique qu'on le trouverait. Ça serait dans Hugo. Parce que Hugo, c'est Bose. Hugo, à 80 ans, avait une activité sexuelle très forte. Vous connaissez l'anecdote.
Mais c'est
pas. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, vous le couperez.
Non. Vous on verrez. Peut tout dire sur France Culture.
D'accord. Eh bien, j'espère que c'est pas, mais c'est marqué. Il a une histoire avec une dame qui travaille dans la maison. Il a 80 et quelques années et il y a marqué dans son journal « Ma première négresse ». Donc je ne sais pas si on a le droit de le dire. Ça vous, je compte sur vous pour le couper.
Ah là.
Oui, mais ça c'est Hugo, donc on coupe.
Ouais. Non, on ne coupe pas, mais on met des guillemets et on fait entendre les guillemets. Qui veut dire qu'on ne reprend pas ses propos inquiétants.
Mais comment un jour ou l'autre il va y passer, hein ? Je peux
tout
vous
le monde
dire.
Y passe.
Non mais il va y passer.
Oui.
Parce que Juliette Drouet, parce que, alors qu'ils savent pas que c'est elle qui a commencé, la femme, Adèle, Sainte-Beuve. Le pauvre Hugo, lui, enfin le pauvre Hugo, Hugo, paraît-il, aurait eu une sexualité un peu excessive.
Oui.
Il aurait eu une pratique de 9 à 10 fois le jour des noces. Donc c'est beaucoup. Je vois bien dans le public quand j'en parle, les femmes font « Oh !» Elles sont pas contentes, elles disent « Oh !» Pas envie. On sent... Une révolte.
Ils pensent que c'est trop.
Ah, ils n'ont pas envie de ça du tout.
Elles se disent pas, mais mon mari, ça n'a pas été ça. Il y a
non,
pas
elles
moment
disent heureusement que mon mari n'est pas Hugo.
Ah bon ?
Ah oui. Ça les emballe pas à un point.
Ah bon ?
Oui. Ah oui, elles détestent l'idée. Enfin bon, peut-être que j'ai une clientèle, mais en tout cas...
Particulière, oui.
Dix fois, c'est un peu... Bon. Et elle en a eu marre, et elle a marqué dans sa chambre à coucher, ici c'est complet, stop. Vous rentrez plus, Victor. Il y a plus de. J'ai 5 mômes. Stop. Et il a été très déprimé parce qu'il avait une grande demande. Et il a eu cette rencontre avec Juliette Drouet, que les jeunes pourraient appeler hyper bonne. Bon, elle était bonasse. Bon, la meuf
voilà
était
là
bonasse.
Là. L'émission là.
Oui,
prend une direction un peu.
Voilà, non, moi je vous dis les éléments.
Un peu
Juliette Drouet a eu la révélation érotique. Elle était la maîtresse de Pradier, elle était nue très souvent, et lui, il a eu un coup de foudre énorme. Et là, ça a été la passion sexuelle. Avant qu'il y ait d'autres problèmes, parce qu'il y en a tellement.
Et donc, Juliette Drouet, elle, l'accueillait, accueillait sa passion
venez
sexuelle
me baiser,
avec...
Venez me baiser, elle n'arrête pas de lui écrire, vous avez l'air étonné. Elle dit, ça fait peur d'ailleurs, venez me baiser, oui, je vois toutes vos histoires de table. En tout cas, moi j'aimerais bien que vous veniez me baiser, surtout.
Ah oui, c'est pour ça qu'elle n'aimait pas les tables tournantes, Juliette Drouet.
Je ne sais pas, là on est parti sur un truc, je ne sais pas, j'espère
qu'on
va
ça,
être censuré.
Écoutez, ce sont les digressions inhérentes à la conversation. Alors, revenons oui. à Bose oui, endormi.
Oui. oui, mais puisque vous dites que c'est sexuel, Bose.
Mais bien sûr, c'est évidemment le...
C'est pas la naissance d'Israël.
Non, c'est le poème de l'imminence sexuelle, elle a raison. Parce que pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, s'était couchée au pied de Bose, le sein nu.
Espérant ne sait quel rayon inconnu qu'en viendrait du réveil, la lumière subite et la levée régénale. Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Et là, c'est le génie. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle.
Nuptiale.
Voilà.
L'ombre était nuptiale quand même.
Oui, d'accord.
Et il y a ces quatre derniers vers absolument admirables. Immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Et cette faucille d'or, c'est la lune.
Ça te rend croyant, ça, non ?
Ça pourrait.
Ah, moi, ça m'a bouleversé. C'est une vision de Dieu qui est très alléchante. Parce que elle met en scène pourquoi c'est aussi beau. Comment ça se fait que c'est aussi beau, tout ça.
Oui, comment ça se fait. Et puis, alors, il y a aussi ce vers très célèbre, parce que c'est le Zeug, comme la figure de rhétorique la plus connue, vêtu de probité candide et de lin blanc. Voilà. Donc il y a des vers de Bose endormi qui survivent en nous.
Oui,
et
oui.
Vous avez quand même le mérite de nous rendre le poème dans son intégralité et comme si nous ne l'avions jamais entendu. Et c'est un peu votre objectif dans ce spectacle,
oui,
Fabrice
Ocquigny. Oui, et puis il y a une qualité de silence à ce moment-là. Là, c'est scientifique. Hein. Ils peuvent tousser de temps en temps sur la mort de la petite. Bon, je ne vais pas vous développer ma thèse sur la toux. Il n'y a toux que quand il y a réaction hostile à ce qui est dit. Ça n'existe pas, la toux, Alain. C'est un fantasme. Oui, la toux, nous sommes tous enrhumés. Nous avons tous des angines, nous avons tous des bronchites. Sauf que quand vous parlez aux gens d'une connerie très, très drôle, ou sexuelle, ou financière, sur une connerie quelconque, il n'y a plus de toux. Plus aucune toux. Par contre, quand vous dites la mort de Léopoldine, il y a de la toux.
Et pourquoi les gens toussent à la mort?
Parce que c'est inconfortable. Le bateau Yves de Rimbaud, c'est un festival de toux quand je le jouais. Et par contre, quand je racontais mes investissements en fonds euros pendant la crise de 2008, il n'y avait plus aucune toux. C'est une science exacte. La toux est une réaction organique. Et maintenant, j'ai de la chance, j'ai un public. J'ai un public. Enfin, y a les gens qui ont la gentillesse de venir me voir sont souvent assez bien élevés, donc ils toussent dans leur truc. Mais il y a aussi la toux affirmée. C'est-à-dire, j'existe, espèce de fiante. Il n'y a pas que toi qui parles. Moi aussi, je peux exister en faisant... Voilà, en hurlant la toux. Ça, c'est un symptôme rare, mais qui existe. Et là, je perds toute patience et je deviens une caricature du caractériel. Je leur demande de sortir gentiment et de les rembourser. Je les rembourse. Je
dis pas... Et ils sortent, non ?
Non, ils restent.
Ils restent.
Mais il n'y a plus de bruit. Et quelquefois, miraculeux, le public applaudit. Parce que c'est lui qui subit. J'ai envie de leur dire, moi, personnellement, je connais le texte. Mais je ne voudrais pas que sur... Combien de fois j'ai dit, silence, elle a parlé, tenez, voici le bruit de sa main sur la clé, attendez, elle vient, laissez-moi que j'écoute, car elle est quelque part dans la maison, sans doute. C'est un génie, hein. C'est un génie énorme. Et même Rimbaud a pompé. Vous voyez, il y a un vers très banal dans Bose endormi. Il dit simplement, c'était le mois où la nature est douce. Ça, c'est les moments de génie d'Hugo. Un vers d'une simplicité. C'était le mois où la nature est douce, les collines ayant des lys sur leur sommet. Ruth songeait, Bose dormait, l'herbe était noire, les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. Et après, il est capable de... C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Il est capable d'aller très haut et puis tac, de t'en faire une bizarre. C'est un vers bizarre. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire, alors que la précédente, c'était, voilà, le génie d'Hugo. Alors, Moi, j'ai moins de sympathie pour Flaubert. L'homme est plus sympathique, Flaubert. Parce que Flaubert, il doute. Flaubert, il dit des phrases extraordinaires. Je suis un mystique au fond, mais je ne crois à rien. La débauche me plaît, je vis comme un moine. Hein? Et c'est merveilleux. Il n'y a pas ça chez Hugo. Hugo, il a de l'humour, mais il a un profond... Hein? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais je pensais, parce que quand vous évoquiez Flaubert... Et Flaubert disait, j'aurais presque tout Madame Bovary pour Beaux Endormis. Oui. Il faut aussi songer à l'extraordinaire entreprise de Flaubert. C'est-à-dire, il a voulu écrire un roman comme si c'était un poème. Et d'ailleurs, il a dit ça. C'est-à-dire, il a voulu mettre la prose à la hauteur de la poésie. Les phrases les plus justes devaient être aussi les plus harmonieuses. D'où sa souffrance. La souffrance de Flaubert a quelque chose d'étonnant. Parce que c'est un homme qui écrivait facilement. Oui. Il faut lire sa correspondance. Ça vient tout seul et c'est magnifique.
Oui. Et il y en a même qui préfèrent.
Oui, ça, je pense qu'ils n'ont pas raison. Mais c'est qu'on ne peut pas préférer la correspondance de Kafka au roman de Kafka. Mais il est vrai que certaines lettres sont très belles. Et puis, il y a notamment cet extrait d'une lettre à George Sand, j'y crois. Je n'écris pas pour le lecteur d'aujourd'hui, mais pour tous les lecteurs qui se présenteront tant que la langue vivra. Oh, Barthes a merveilleusement commenté cette phrase.
Tant que la langue vivra.
Donc la langue elle-même est mortelle. Et Flaubert en a conscience. Et tant que la langue vit, vous pouvez dire Victor Hugo, La Fontaine ou Baudelaire. Mais il faut encore que la langue vive. Mais j'aime chez Flaubert cette entreprise. Donc, il écrit Madame Bovary, et c'est une horrible souffrance pour lui. Une horrible souffrance, justement, parce que, pour la première fois, un romancier veut mettre la prose à la hauteur de l'exigence poétique. Et ça...
Il veut incarner l'impersonnalité. Veux être dans mes romans comme Dieu dans la création, présent partout, visible nulle part.
Et en même temps...
Et George Sand ne comprend rien à son travail. Hein. Elle lui dit, allez-vous prendre des bains. L'autre dit, mais pourquoi vous me parlez de bains? Je veux être impersonnel dans mon œuvre.
Je veux être impersonnel.
Alors, je pense que... Je vais vous faire une métaphore et après, je vous laisse parler.
Non.
Il y a, entre Flaubert et Hugo, la même différence entre Louis Jouvet et Rému. Ah. Jouvet est d'une intelligence supérieure à Rému. Mais Jouvet, qui est mon maître, qui est le génie que je suis comme un élève... Jouvet est moins puissant que Rému. Rému est supérieur à Jouvet, malheureusement. Pas théoriquement, mais en sentiment, personne ne peut atteindre Rému. Et Jouvet, c'est l'homme qui travaille. Rému, c'est l'homme qui incarne. Bien. Eh bien, dans Hugo, c'est une métaphore, je ne sais pas ce qu'elle vaut, c'est peut-être une bêtise. Eh bien, Flaubert n'a pas la nature d'Hugo. Flaubert n'a pas la nature d'Hugo. D'ailleurs, il passe son temps à vouloir la contrôler et la maîtriser. Alors qu'Hugo ne se pose pas ces questions-là. Il y va, ça chie, quoi. Ça y va. Il n'a pas envie de contrôler. Et c'est pour ça qu'il y a le grandiose et des fois le raté. Alors que chez Flaubert, à part certaines œuvres qui sont étranges comme Salammbô, c'est quand même une incarnation de l'œuvre d'art, quand même.
Oui, et d'un autre côté, c'est Flaubert qui dit que écrire pour lui, c'est aller dans l'âme des choses. Et ça, c'est vraiment la merveilleuse définition du projet du romancier. Aller dans l'âme des choses. Vous voyez, histoire d'une âme pour Victor Hugo.
Exactement.
Aller dans l'âme des choses pour Flaubert.
Et Hugo est la méditation qui marche, donc il n'écrit qu'en marchant.
Oui.
Et là, Nietzsche dit, en parlant de Flaubert... Tu es un cul plombé puisque tu ne marches pas et que toute pensée ne doit être que le résultat d'une fête musculaire. Donc, Flaubert est assis, Hugo marche.
Et Nietzsche aussi marche.
Ah oui, le bon qu'on puisse dire, c'est qu'il marche.
Et vous marchez, Fabrice Luchini?
Je marche, parce que je suis incapable de faire le moindre sport, mais on m'a dit de marcher 35 minutes, donc je marche comme un débile.
Mais c'est très bien. Et vous avez une montre qui compte
quand même pas. Je vais
vous n'en êtes pas là, Fabrice.
J'en suis pas là. J'ai un petit appareil pour voir si j'ai fait 8000 pas, mais il marche jamais.
Ah
et
bon.
Je suis incompétent face à la technique. C'est le point commun que nous avons tous les deux.
Ah ben, très bien. Écoutez, ben, restez.
Pourquoi
tel
on
que
ferait
vous êtes,
pas beaucoup, une journée entière tous les deux?
Et on ferait quoi?
Eh ben, on pourrait parler de tout, de Rimbaud, de...
Ah, avec grand plaisir. Ma difficulté avec Zucchini, c'est que je marche mal. Séquelle d'une opération du dos.
Ouais.
Et donc, je suis contraint d'être un cul de plomb.
Un cul de plomb, mais qui produit quand même des étoiles.
Oh,
vous connaissez ce très beau...
Hugo, ça.
Oui, non, c'est une phrase de Flaubert. Il dit « Nous voulions émouvoir les étoiles. Pauvre mec, dit-il de lui. » Et malheureusement, la citation n'est pas exacte, hein, elle est complètement fausse, mais ça dit « Nous aimerions émouvoir les étoiles et on fait que danser les ours. »
Oh, il fait magnifique. Merci Fabrice Lucchini.
Merci Alain Finkielkraut.
Alors, je voudrais signaler que vous lisez Victor Hugo à guichet fermé actuellement au Théâtre des Mathurins jusqu'au 21 mars et vous reprendrez votre lecture le 22 octobre 2024 au Théâtre de l'Atelier les mardis, mercredis et jeudis. Et vous jouez également votre spectacle La Fontaine et Le Confinement jusqu'au mois de mars 2024 au Théâtre Montparnasse. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard et Lise Ripoche, à la réalisation Alexandra Malka. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La postérité de Pierre Bonnard ». Mes invités seront Stéphane Guégan et Benjamin Oliven. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.